Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Martins, biologiste et spécialiste de médecine chinoise. Elisabeth Martins, qui a vécu plusieurs années en Chine, enseigne aujourd'hui en Belgique la pensée et la langue chinoise. Elle vient de publier « Qui sont les Chinois ? Pensée et paroles de Chine » aux éditions Max Milo, un essai où elle analyse en convoquant la linguistique, la philosophie et la mythologie l'influence de l'environnement sur le développement du langage et par là même sur la manière dont les Chinois appréhendent le monde, tout en nous invitant à une réflexion sur notre propre langage. Alors, Elisabeth Martins, pourquoi êtes-vous passée de la biologie à la médecine chinoise ?
Ah ben c'est une longue histoire, mais je vais la raccourcir. J'ai fait la biologie. À la fin de mes études, j'ai fait une recherche sur une plante médicinale qui, par hasard, était chinoise, le Qinghao, qu'on utilise en Chine depuis plusieurs millénaires pour combattre la malaria. Et donc, je me suis dit, après mes études, pourquoi ne pas aller voir sur place la manière dont cette plante est encore utilisée en Chine. Donc, me voilà demandant une bourse d'abord, que j'ai pu avoir à condition que je fasse une année de langue chinoise, parce qu'à l'époque, en Chine, en 88, il n'y avait pas ni d'études ni de recherches en langue occidentale, que ce soit l'anglais ou le français. Donc, j'ai dû passer par une année de langue chinoise.
Et donc, vous êtes parti carrément avec votre petit bagage de chinois pour étudier 3 ans à Nankin quand même.
Non, c'est pas tout à fait
c'est
ça.
Pas tout à fait ça.
C'est-à-dire que je suis partie avec 40 kilos de bagages, mais pas un mot de chinois en poche. Et donc, arrivée sur place, j'ai fait un an de chinois là-bas à Nanjing. Et donc, c'est cette année de chinois qui m'a permis de me débrouiller dans le quotidien.
Voilà, tout ça est une question de hasard. Alors apprendre le chinois, dites-vous, c'est faire un voyage dans le temps sur les traces de la formation des langues aux prémices de l'humanité. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Oui, tout à fait, surtout pour la langue chinoise. Parce qu'on remarque dans la langue chinoise qu'il y a plusieurs termes, plusieurs mots en chinois qui en fait n'ont absolument pas peur de l'ambivalence. Alors que l'ambivalence est présente dès le début de la vie. De tout ce qui est vivant, il y a directement de l'ambivalence. Pour qu'il y ait moteur d'évolution, il faut ambivalence. Et dans les termes, certains mots en chinois, on reconnaît cette ambivalence. Exemple, un mot assez connu qui est le mot « dongxi », qui est formé de 2 caractères, mais 2 caractères qui, chez nous, sont en termes d'opposition l'un à l'autre, puisque ça signifie « est-ouest » en traduction littérale. Maintenant, traduction non littérale, mais dans le quotidien, ça signifie « un truc machin chose, un objet quelconque ». Donc, ça signifie que dans l'idée de la Chine, dans la pensée chinoise, un truc machin quelconque, n'importe quel objet, est habité ou est construit par des couples d'opposés complémentaires tels que le sont est et ouest.
Oui, ça voudrait presque impliquer que la notion d'espace est aussi très différente. Parce que si on est entre l'est et l'ouest, on est nulle part, donc on est dans un truc machin bidule.
La notion d'espace, effectivement, est ressentie de manière très différente par la Chine et par les Chinois en général. Et ça se remarque dans la langue chinoise par la manière dont ils utilisent les verbes. Donc, vous savez certainement qu'en langue chinoise n'existe pas la conjugaison ni les déclinaisons, puisque chaque caractère est invariable. Mais donc, pour signifier une conjugaison ou un déplacement dans le temps, il faut ajouter des particules modales, on appelle ça, qui signifient soit un passé, un présent, un futur pour le déplacement dans le temps. Mais alors, comment ils s'en sortent pour signifier un déplacement dans l'espace et le mouvement ? C'est qu'ils utilisent plusieurs verbes l'un après l'autre qui se suivent. Hein? Par exemple, chang chi lai, ce sont 3 verbes mis l'un à côté de l'autre et qui signifient le premier se lever, le deuxième ça commence et lai aller. Donc il y a tout un mouvement à partir de rien, cela se met en route, cela grandit et cela s'expansionne, on dit ça, s'expanse. Donc il y a une expansion dans l'espace.
Eh bien, ça nous paraît compliqué finalement à nous Français. En quoi la langue chinoise, comme vous le dites, manifeste avec justesse, une pensée qui laisse la porte ouverte aux imperfections de la vie ?
Ça s'est plus pris par rapport aux langues occidentales, entre autres le français, puisqu'on connaît bien le français chez nous. Et donc, dans les langues occidentales, au contraire, on va chercher à clarifier les choses. On recherche la vérité des choses, on cherche le sens de chacun des mots dans la phrase. Tandis que dans la langue chinoise, on a beaucoup plus d'attention aux relations entre les mots. Et du fait que l'importance est mise dans la relation entre les mots, on ne va pas chercher la vérité ou les en soi des mots, donc les valeurs absolues des mots. De ce fait-là aussi, les Chinois en général, entre guillemets, vont porter moins d'attention à la perfection ou au perfectionnement des choses.
Ça se remarque dans la rue chinoise, et ça on verra ça tout à l'heure, peut-être avec Laurent Septier. Alors, on a dit que tout à l'heure que c'était une langue qui n'avait pas de conjugaison. Alors, comment on fait pour manier le chinois quand on est européen? Parce qu'il n'y a pas de conjugaison, mais il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Alors, comment on fait pour parler chinois?
On apprend avec patience. Et donc évidemment pour nous au début c'est très décontenançant la langue chinoise, mais bon c'est vrai la première année quand j'ai appris la langue chinoise, ce sont des phrases types qu'on apprend, hein, donc des phrases toutes faites qui nous permettent de nous débrouiller dans le quotidien en rue par exemple pour demander du céleri ou changer de l'argent à la banque. Mais donc pour avoir une conscience plus aiguisée de comment sont formées les phrases, donc de la linguistique chinoise, ça demande une recherche beaucoup plus approfondie. Et donc là, c'est beaucoup d'années d'études ou de pratiques de la langue chinoise que je n'ai pas. D'ailleurs, je ne donne pas cours de langue chinoise.
Oui, tout à fait. Vous donnez des cours de Qigong.
Voilà, je donne des cours de médecine, de pensée chinoise, de Qigong, de Tai Chi, mais pas de la langue chinoise.
Mais la langue chinoise vous a permis d'approcher c'est tout ça.
Voilà, tout à fait. Donc la langue chinoise donne vraiment une fenêtre, même une grande porte ouverte vers toutes sortes de pratiques de la Chine.
Que doit le chinois moderne au chinois ancien?
Que doit le chinois moderne au chinois ancien? Énormément de choses. Donc le chinois moderne, d'abord ce qu'on appelle le chinois moderne, c'est déjà assez ancien pour nous, parce que c'est la langue des Han, donc ça date du début de notre ère. Alors ce que doit la langue des Han au chinois ancien, énormément de choses, puisqu'on construit l'actuel avec l'ancien. Donc par exemple, la manière de les tons, les différents tons, étaient là dans les langues archaïques. Elle était là de manière même plus nombreuse dans les langues archaïques, puisqu'il y en avait, on croit qu'il y en a eu au moins 8 tons différents, alors que le chinois actuel, donc le chinois moderne, n'en compte plus que 4, mais qui proviennent des langues archaïques, par exemple.
Alors en termes de chinois moderne, je pensais à la modification, à la réforme de Sun Yat-sen, et puis à la simplification de l'écriture de Mao.
Oui, alors on est là dans l'écriture, pas dans la langue parlée. La simplification, il y a des gens qui sont pour la simplification parce qu'effectivement, ça a permis à énormément de Chinois de pouvoir apprendre à lire et à écrire. Donc, on a ouvert les écoles avec cette simplification de l'écriture. Maintenant, il y a d'autres personnes, et c'est plus des sinologues en Occident d'ailleurs, qui disent qu'on a perdu énormément de choses en simplifiant les caractères. Ce qui n'est pas faux, bien sûr, mais d'un autre côté, la langue simplifiée ou l'écriture simplifiée a permis l'apprentissage du chinois à énormément de Chinois eux-mêmes, donc écriture et lecture.
Donc ce qui est plutôt une bonne chose. On a parlé des tons tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérise une langue à tons?
C'est le fait que le tractus vocal de l'être humain est ainsi construit qu'on ne peut qu'émettre 30 à 50 sons différents, donc phonèmes différents. Avec ces 30 à 50 phonèmes, on fait à peu près quelques centaines de syllabes différentes. Or, la langue chinoise est syllabique. Donc, si vous comptez les 300 à peu près syllabes qu'on peut construire avec nos phonèmes, ça nous donne 1200, 1300 mots à peu près, ce qui est encore beaucoup trop peu. Donc, on doit encore multiplier et on multiplie par par le fait que les homophones, donc il y a énormément d'homophones qui restent dans la langue chinoise, et donc on reconnaît ces homophones dans une phrase parce que par les relations qu'ils ont avec les autres mots de la phrase. Hein, donc c'est par relation entre les mots qu'on reconnaît les homophones dans une phrase.
Et si vous donniez un exemple ?
Alors, un exemple, le mot « che » au quatrième ton, hein, a, si vous ouvrez un bête dictionnaire tout à fait basique, a au moins une quinzaine de traductions différentes. Donc, totalement différentes, ce sont bien des homophones. Une traduction, c'est le lettré, par exemple. Une autre, c'est un modèle. Une autre, c'est essayer. Bon, donc, c'est chaque fois carrément un mot différent. Ce sont bien des homophones. Mais donc, dans une phrase, on va reconnaître qu'il s'agit du che modèle ou du che essayer ou du che lettré, etc. Parce que ce che est mis en relation avec un mot qui est à côté, son voisin ou le précédent. Hein. Donc de cette manière-là, on reconnaît ce qui fait penser que pour les Chinois, les relations entre les choses sont bien plus importantes que les choses en elles-mêmes. J'y reviens là.
Et d'ailleurs, en vous écoutant, ce fameux « che » avait sonné tout pareil à nos oreilles. Donc en fait, c'était vraiment la relation.
Mais c'est vraiment des homophones, hein. Réels homophones. Ouais. Alors ce qui est quand même important à dire aussi, c'est que chacun de ces homophones, j'en ai pris l'exemple de « che », mais chacun de ces homophones peut aussi prendre des significations différentes suivant le rôle qu'il a dans la phrase. Hein. Donc par exemple, j'ai pris le mot « che » modèle, hein. Je vous ai donné une des traductions, c'est modèle, mais ce mot modèle peut devenir un mot cérémonie dans une autre phrase, ou peut devenir un verbe modelé, ou peut devenir un adjectif cérémonieux, etc.
Ouais, hein. Tout est une question de contexte.
D'où vient la relation, oui.
Oui. Hein. Oui, tout à fait. D'où vient l'origine du mot mandarin pour désigner la langue chinoise ?
Alors ça, c'est les Portugais hein, qui sont arrivés en Chine au 16e, 17e siècle, je ne sais plus, 16e je crois, et qui ont vu que certains Chinois donnaient des ordres, donc mandar, ça veut dire donner des ordres en portugais, et donc donner des ordres à d'autres. Et donc la langue de ceux qui donnaient les ordres est le mandarin. Donc on a pris ce terme mandarin pour signifier le chinois moderne, en fait.
Et le chinois est bien plus concis que le français.
Ah oui, tout à fait. Hein, donc, ils ont l'esprit d'économie, hein, qui rejoint d'ailleurs une tradition agricole et paysanne qui est très 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 longue en Chine. Et donc, effectivement, la langue chinoise dit les choses en beaucoup moins de mots que la langue française ou la langue anglaise, les langues occidentales en général.
Alors, il y a des mots issus des concepts occidentaux qui ne sont pas faciles à traduire en chinois. On peut citer liberté, démocratie, république, droit de l'homme, tout ça, c'est compliqué.
Ben, c'est compliqué parce que ces mots n'existaient pas. Donc, ça me fait penser à des mots également dans le bouddhisme qui sont venus de l'Inde et qui ont atterri en Chine avec les moines bouddhistes qui ont passé la frontière, la route de la soie, etc. Et donc, ils arrivent avec des concepts qui n'existaient pas en Chine. Et donc, les gens qui ont traduit les sutras bouddhistes ont dû puiser dans le vocabulaire existant sur place. Et donc, ça a donné, par exemple, l'éveil du Bouddha, c'est devenu le Tao, alors que ça ne signifie pas du tout la même chose. Hein, donc effectivement, c'est la même chose ici avec les démocraties, libertés, etc. C'est des concepts que nous connaissons chez nous et qui n'existaient pas de la même manière, en tout cas en Chine. Et donc il a fallu trouver des mots pour désigner cela. Et donc c'est des concepts introduits de l'Occident.
Mais avec la manière qu'ont les Chinois d'inventer les mots, ça doit très bien marcher finalement.
Ça marche, oui, bien sûr. On trouve toujours des mots pour dire les choses dans n'importe quelle langue du monde.
Alors, la langue et la pensée s'adaptent à notre milieu naturel, mais quel est celui des Chinois, le milieu naturel des Chinois ?
Alors, le milieu naturel, je ne vais pas dire des Chinois parce que la Chine est énorme,
de la Chine.
Hein, bon. Mais le milieu naturel où on pense que les langues chinoises sont apparues, ce sont les rives du fleuve Jaune, donc un milieu assez fertile, assez propice à l'agriculture, ce qui a permis aux Chinois, en tout cas dans l'hypothèse ou dans la thèse de M. Audricourt, qui a proposé cette thèse au début du XXe siècle, ce qui a permis aux Chinois donc d'observer leur environnement. Et donc, observant leur environnement, effectivement, ils ont vu que la relation entre les différents acteurs d'un écosystème, par exemple, est plus importante que l'oiseau là tout seul. Parce que l'oiseau là tout seul, bah, il ne peut pas faire grand-chose. Tandis que l'oiseau, s'il est porté par le vent, par exemple, bah, là, c'est déjà la relation entre l'oiseau et le vent.
Et l'agriculture a donc joué un grand rôle dans l'élaboration du langage.
Bien sûr, hein, donc l'agriculture, l'environnement dans lequel se trouvaient les Chinois était très propice à cela. Et donc, observant les saisons, le passage des saisons, l'influence des saisons sur les semences, les récoltes, etc., eh bien, les Chinois ont acquis un langage qui est un langage de relation, en fait, où les relations entre les choses et entre les mots pour les phrases sont plus importantes que les choses elles-mêmes.
Vous donnez comme exemple d'adaptation des langues à l'environnement le nombre de mots élevés qu'ont les Inuits pour dire neige par rapport à l'anglais.
Oui, absolument. Donc là, on voit bien l'importance de l'environnement sur la construction du langage. C'est un exemple assez connu d'ailleurs, que les Inuits ont, je crois, une dizaine de mots pour dire neige, suivant la texture de la neige, l'époque à laquelle elle tombe, etc., le toucher de la neige, etc. Tandis que nous, effectivement, on connaît la neige pendant une semaine, deux semaines, parfois en Belgique ou en France. Et puis donc, on n'a qu'un seul mot pour signifie la neige.
Oui, et c'est comme ça que se construisent les langues. Alors, vous dites que mémoriser les caractères chinois est apaisant et rééquilibre les deux hémisphères du cerveau. Voilà une bonne nouvelle.
Oui, en effet. Donc, c'est pour ça qu'on est très content d'apprendre la calligraphie ou en tout cas d'apprendre à écrire le chinois parce que ça apaise beaucoup le cerveau et c'est très calmant. Les petits Chinois ont peut-être de la chance, je ne sais pas, d'apprendre le chinois, mais pour eux, c'est quand même assez ardu puisqu'ils mettent toutes leurs années primaires au recopiage des caractères et donc c'est un long apprentissage.
Cela dit, en France, on commence à introduire le chinois à l'école primaire. Peut-être que nos enfants seront beaucoup plus apaisés après. Alors, on a parlé du mot dong xi tout à l'heure, mais vous citez le mot choufou, le mot confort, qui est bien différent.
Choufou.
Choufou, oui.
Bon. Oui, choufou.
Donc, et si je dis choufou, personne ne comprend.
Ben, c'est-à-dire, s'il est sorti du contexte, comme n'importe quel mot, c'est un peu difficile à savoir ce que vous voulez dire. Mm-hmm. Mais là, je le comprends parce que je l'ai cité dans mon livre. Et puis choufou, c'était quand même un mot très très courant parce qu'on l'emploie pour dire qu'on est bien, quoi, qu'on est à l'aise, mm-hmm. qu'on est confortablement installé. Comme dans le studio ici, par exemple, il fait choufou, il fait bien chaud. Les fauteuils sont agréables, mm-hmm. voilà.
Un petit côté gemütlich.
Un petit côté quoi?
Gemütlich en allemand.
Voilà, tout à fait.
C'est ça, c'est, voilà. c'est cette idée-là. Ouais. Alors, on a parlé des mots, mais les chiffres en Chine ne servent pas qu'à compter. Le 6, le 8 et le 9 portent chance.
Oui, chacun des chiffres, mais ça existe en numérologie occidentale également, mais chacun des chiffres en chinois est porteur de chance ou d'autre chose. Alors le 9, bah oui, c'est le chiffre du dragon tout puissant, on va dire. C'est le vieux yang, donc celui qui est prêt à changer, par exemple, et de virer vers une autre époque. Donc chaque chiffre est symbolique de quelque chose, en effet.
Sauf que la numérologie en Chine fait partie de la vie quotidienne. Quand on achète un numéro de téléphone, par exemple, un nouveau téléphone.
Ou une plaque d'immatriculation pour les voitures.
Voilà. Alors que chez nous, tout le monde se fiche totalement de la numérologie.
Ben là, c'est intégré vraiment au quotidien. Voilà. Donc, sur les emails également, ils font attention à ça, d'avoir un email porteur de chance. Donc, par exemple, écrire 6 fois le chiffre 9, c'est déjà porteur de chance, donc dans l'adresse mail.
Ah oui, ça, effectivement, pas très facile. Que voulez-vous dire quand vous parlez de mots vides et de mots pleins?
Alors, c'est ce que je vous disais tantôt avec les particules modales. Ce sont des exemples de mots vides. Donc, ce sont des mots que l'on rajoute pour signifier, par exemple, un temps. Exemple, wo che kuo le. Donc, le qu'on entend à la fin, che kuo le. Ce le ne signifie rien s'il est pris tout seul. C'est un mot qui ne signifie rien, mais qui est là comme un outil. Donc, ce sont des mots-outils qui permettent de soit dire un adjectif, soit dire un pluriel, soit dire une interrogation, etc. Puisque, effectivement, les mots sont invariables, donc on trouve d'autres manières de dire les variations du temps, les variations, les mouvements dans l'espace, etc.
Finalement, ça fait une langue très poétique.
C'est une langue très poétique, oui, en même temps très poétique et en même temps très philosophique, j'allais dire. C'est-à-dire qu'elle elle est très porteuse de la pensée chinoise. Donc c'est pour ça que je crois que quand on étudie la langue chinoise, on a en même temps une ouverture à la pensée chinoise.
Alors on a parlé des chiffres qui portent chance tout à l'heure, mais vous parlez du poids des prénoms dans la vie d'un enfant.
Oui, c'est une grande aventure que de recevoir un prénom en Chine, ou en tout cas ce l'était à l'époque de Mao, par exemple, hein, où les prénoms étaient très imprégnés de ce qui se passait. Voilà. Et donc,
on peut citer des exemples.
Comment elle s'appelait ? Je pense à quelqu'un en particulier qui s'appelait Wuping, voilà, l'équilibre de la guerre. Donc, c'était ma copine avec qui j'allais en forêt le dimanche. Elle s'appelait Wuping, équilibre de la guerre. Donc, c'est quand même un peu lourd à porter, ce genre de prénom.
Oui. Aujourd'hui, on donne quoi comme genre de prénom ?
Alors, qu'est-ce que je pourrais donner ? Danping, par exemple, hein, qui est... que ça veut dire encore ? Ou, je ne sais plus Danping ce que ça veut dire, mais c'était le nom d'une fleur. Donc, une fleur d'une certaine couleur. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus poétique, on va dire, dans le chinois traditionnel. Et actuellement, on revient à ce genre de prénom.
Évidemment.
Alors que dans l'époque 20e siècle, c'était des prénoms beaucoup plus costauds.
C'est sûr que l'équilibre de la guerre aujourd'hui, on peut espérer que la page est tournée. Alors, le livre des mutations, le Yi Qing, pourrait avoir un rapport avec la structure de l'ADN, dites-vous ?
Oui, ça c'est une grande aventure aussi. C'est assez compliqué à expliquer, mais effectivement... certains biologistes généticiens ont remarqué que l'architecture des hexagrammes, donc la manière dont sont constitués les hexagrammes...
Alors,
avec
si vous
les
pouvez
trigrammes,
expliquer les hexagrammes et les trigrammes, parce que je ne suis pas sûre. Bah, oui, rapidement comme ça, parce que sinon on ne comprend pas.
Alors oui, dans le livre des mutations, c'est un livre constitué de 64 images. Ces 64 images sont 64 hexagrammes, parce que ce sont six traits superposés. Certains sont yin, d'autres sont yang, donc les yang sont des traits pleins, les yin sont des traits ouverts. Et donc pour avoir construit ces 64 hexagrammes, la manière de les avoir construits est similaire à la manière dont l'ADN est construit. Bon, si je ne peux pas expliquer ça mieux que ça pour le moment, parce que là, ça demande vraiment un grand
saut
dans la génétique. Donc là...
Bon, en tout cas, on peut le constater.
On le constate, oui, tout à fait. Hein. Donc c'est constaté, entre autres, François Jacob, qui était quand même un biologiste assez éminent au XXe siècle, en a parlé.
Mm-hmm. Mais c'est surprenant, on ne peut pas l'expliquer, du coup.
Ben, ça pose surtout une grande question, c'est-à-dire est-ce que l'esprit ou la manière de penser de l'être humain est déjà présente dans la manière dont les molécules se construisent. Voilà, on peut dire ça ainsi, on peut résumer ça ainsi. Donc c'est un très grand point d'interrogation. Ça pose question aux biologistes en tout cas et aux philosophes également.
En tout cas, c'est un travail passionnant à poursuivre. Elisabeth Martins, merci. Je rappelle l'apparition de votre livre « Qui sont les Chinois ? Pensées et paroles de Chine » aux éditions Max Milo.
Donner des ordres, donc mandar, ça veut dire donner des ordres en portugais. Et donc donner des ordres à d'autres. Et donc la langue de ceux qui donnaient les ordres est le mandarin. Donc on a pris ce terme mandarin pour signifier le chinois moderne en fait.
Et le chinois est bien plus concis que le français.
Ah oui, tout à fait. Hein, donc, ils ont l'esprit d'économie, hein, qui rejoint d'ailleurs une tradition agricole et paysanne qui est très 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 longue en Chine. Et donc, effectivement, la langue chinoise dit les choses en beaucoup moins de mots que la langue française ou la langue anglaise, les langues occidentales en général.
Alors, il y a des mots issus des concepts occidentaux qui ne sont pas faciles à traduire en chinois. On peut citer liberté, démocratie, république, droit de l'homme, tout ça, c'est compliqué.
Ben, c'est compliqué parce que ces mots n'existaient pas, donc ça me fait penser à des mots également dans le bouddhisme qui sont venus de l'Inde et qui ont atterri en Chine avec les moines bouddhistes qui ont passé la frontière, la route de la soie, etc. Et donc ils arrivent avec des concepts qui n'existaient pas en Chine. Et donc les gens qui ont traduit les sutras bouddhistes ont dû puiser dans le vocabulaire existant sur place. Et donc ça a donné par exemple l'éveil du Bouddha. C'est devenu le Tao, alors que ça ne signifie pas du tout la même chose. Donc effectivement, c'est la même chose ici avec les démocraties, libertés, etc. C'est des concepts que nous connaissons chez nous et qui n'existaient pas de la même manière, en tout cas en Chine. Et donc il a fallu trouver des mots pour désigner cela. Et donc c'est des concepts introduits de l'Occident.
Mais avec la manière qu'ont les Chinois d'inventer les mots, ça doit très bien marcher finalement.
Ça marche, oui, bien sûr. On trouve toujours des mots pour dire les choses dans n'importe quelle langue du monde.
Alors, la langue et la pensée s'adaptent à notre milieu naturel, mais quel est celui des Chinois, le milieu naturel des Chinois ?
Alors, le milieu naturel, je vais pas dire des Chinois parce que la Chine est énorme,
de la Chine.
Mais le milieu naturel où on pense que les langues chinoises sont apparues, et ce sont les rives du fleuve jaune, donc un milieu assez fertile, assez propice à l'agriculture, ce qui a permis aux Chinois, en tout cas dans l'hypothèse ou dans la thèse de Monsieur Audricourt, qui a proposé cette thèse au début du XXe siècle. Ce qui a permis aux Chinois donc d'observer leur environnement. Et donc, observant leur environnement, effectivement, ils ont vu que la relation entre les différents acteurs d'un écosystème, par exemple, est plus importante que l'oiseau là tout seul. Parce que l'oiseau là tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Tandis que l'oiseau, s'il est porté par le vent, par exemple, là, c'est déjà la relation entre l'oiseau et le vent.
Et l'agriculture a donc joué un grand rôle dans l'élaboration du langage.
Bien sûr, donc l'agriculture, l'environnement dans lequel se trouvaient les Chinois était très propice à cela. Et donc, observant les saisons, le passage des saisons, l'influence des saisons sur les semences, les récoltes, etc., eh bien, les Chinois ont acquis un langage qui est un langage de relation, en fait, où les relations entre les choses et entre les mots pour les phrases sont plus importantes que les choses elles-mêmes.
Vous donnez comme exemple d'adaptation des langues à l'environnement le nombre de mots élevés qu'ont les Inuits pour dire neige par rapport à l'anglais.
Oui, absolument. Donc là, on voit bien l'importance de l'environnement sur la construction du langage. C'est un exemple assez connu d'ailleurs, que les Inuits ont, je crois, une dizaine de mots pour dire neige, suivant la texture de la neige, l'époque à laquelle elle tombe, etc., le toucher de la neige, etc. Tandis que nous, effectivement, on connaît la neige pendant une semaine, deux semaines, parfois en Belgique ou en France. Et puis donc, on n'a qu'un seul mot pour signifie la neige.
Oui, et c'est comme ça que se construisent les langues. Alors, vous dites que mémoriser les caractères chinois est apaisant et rééquilibre les deux hémisphères du cerveau. Voilà une bonne nouvelle.
Oui, en effet. Donc, c'est pour ça qu'on est très content d'apprendre la calligraphie ou en tout cas d'apprendre à écrire le chinois parce que ça apaise beaucoup le cerveau et c'est très calmant. Les petits Chinois ont peut-être de la chance, je ne sais pas, d'apprendre le chinois, mais pour eux, c'est quand même assez ardu puisqu'ils mettent toutes leurs années primaires au recopiage des caractères et donc c'est un long apprentissage.
Cela dit, en France, on commence à introduire le chinois à l'école primaire. Peut-être que nos enfants seront beaucoup plus apaisés après. Alors, on a parlé du mot dongxi tout à l'heure, mais vous citez le mot choufou, le mot confort, qui est bien différent.
Choufou.
Choufou, oui.
Bon. Oui, choufou.
Donc, et si je dis choufou, personne ne comprend.
C'est-à-dire, s'il est sorti du contexte, comme n'importe quel mot, c'est un peu difficile à savoir ce que vous voulez dire. Mm-hmm. Mais là, je le comprends parce que je l'ai cité dans mon livre. Et puis choufou, c'était quand même un mot très très courant parce qu'on l'emploie pour dire qu'on est bien, quoi, qu'on est à l'aise, mm-hmm. qu'on est confortablement installé, comme dans le studio ici par exemple, il fait choufou, il fait bien chaud, les fauteuils sont agréables, mm-hmm. voilà.
Un petit côté gemütlich.
Un petit côté quoi ?
Gemütlich en allemand.
Voilà, tout à fait.
C'est ça, c'est, voilà. C'est cette idée-là. Ouais. Alors, on a parlé des mots, mais les chiffres en Chine ne servent pas qu'à compter. Le 6, le 8 et le 9 portent chance.
Oui, chacun des chiffres, mais ça existe en numérologie occidentale également, mais chacun des chiffres en chinois est porteur de chance ou d'autres choses. Alors le 9, bah oui, c'est le chiffre du dragon tout puissant, on va dire, hein, c'est le vieux yang, donc celui qui est prêt à changer, par exemple, et de virer vers une autre époque. Donc chaque chiffre est symbolique de quelque chose, en effet.
Sauf que la numérologie en Chine fait partie de la vie quotidienne. Quand on achète un numéro de téléphone, par exemple, un nouveau téléphone.
Ou une plaque d'immatriculation pour les voitures.
Alors que chez nous, mais tout le monde se fiche totalement de la numérologie.
Bah là, c'est intégré vraiment au quotidien. Voilà. Hein. Donc, sur les emails également, ils font attention à ça, d'avoir un email porteur de chance. Hein. Donc, par exemple, écrire 6 fois le chiffre 9, hein, c'est déjà porteur de chance, donc dans l'adresse mail.
Ah oui, ça effectivement pas très facile. Que voulez-vous dire quand vous parlez de mots vides et de mots pleins ?
Alors, c'est ce que je vous disais tantôt avec les particules modales, ce sont des exemples de mots vides. Donc, ce sont des mots que l'on rajoute pour signifier, par exemple, un temps. Exemple, wo che kuo le. Donc, le qu'on entend à la fin, che kuo le, hein, ce le ne signifie rien s'il est pris tout seul. C'est un mot qui ne signifie rien, mais qui est là comme un outil. Donc ce sont des mots-outils qui permettent de soit dire un adjectif, soit dire un pluriel, soit dire une interrogation, etc. Puisque, effectivement, les mots sont invariables. Donc on trouve d'autres manières de dire les variations du temps, les variations, les mouvements dans l'espace, etc.
Finalement, ça fait une langue très poétique.
C'est une langue très poétique, oui. En même temps, très poétique et en même temps très... philosophique, j'allais dire, c'est-à-dire qu'elle est très porteuse de la pensée chinoise. Donc c'est pour ça que je crois que quand on étudie la langue chinoise, on a en même temps une ouverture à la pensée chinoise.
Alors on a parlé des chiffres qui portent chance tout à l'heure, mais vous parlez du poids des prénoms dans la vie d'un enfant.
Oui, c'est une grande aventure que de recevoir un prénom en Chine, ou en tout cas ce l'était à l'époque... à l'époque de Mao, par exemple, hein, où les prénoms étaient très imprégnés de ce qui se passait. Voilà. Et donc,
on peut citer des exemples.
Comment elle s'appelait ? Je pense à quelqu'un en particulier qui s'appelait Wu Ping, voilà, l'équilibre de la guerre. Donc c'était ma copine avec qui j'allais en forêt le dimanche. Elle s'appelait Wu Ping, équilibre de la guerre. Donc c'est quand même un peu lourd à porter ce genre de prénom.
Oui. Aujourd'hui, on donne quoi comme genre de prénom ?
Alors, qu'est-ce que je pourrais donner ? Dan Ping, par exemple, hein, qui est... Qu'est-ce que ça veut dire encore ? Ou, je ne sais plus Dan Ping ce que ça veut dire, mais c'était le nom d'une fleur. Donc, une fleur d'une certaine couleur. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus poétique, on va dire, dans le chinois traditionnel. Et actuellement, on revient à ce genre de prénom.
Évidemment.
Alors que dans l'époque 20e siècle, c'était des prénoms beaucoup plus costauds.
Je suis sûr que l'équilibre de la guerre aujourd'hui, on peut espérer que la page est tournée. Alors, le livre des mutations, le Yi Qing, pourrait avoir un rapport avec la structure de l'ADN, dites-vous ?
Oui, ça c'est une grande aventure aussi. C'est assez compliqué à expliquer, mais effectivement... certains biologistes généticiens ont remarqué que l'architecture des hexagrammes, donc la manière dont sont constitués les hexagrammes.
Alors, avec si vous les pouvez expliquer les hexagrammes et les trigrammes, parce que je ne suis pas sûre. Rapidement comme ça, parce que sinon on ne comprend pas.
Alors oui, dans le livre des mutations, c'est un livre constitué de 64 images. Ces 64 images sont 64 hexagrammes, parce que ce sont six traits superposés. Certains sont yin, d'autres sont yang, donc les yang sont des traits pleins, les yin sont des traits ouverts. Et donc, pour avoir construit ces 64 hexagrammes, la manière de les avoir construits est similaire à la manière dont l'ADN est construit. Bon, si je ne peux pas expliquer ça mieux que ça pour le moment, parce que là, ça demande vraiment un grand
saut
dans la génétique. Donc là...
Bon, en tout cas, on peut le constater.
On le constate, oui, tout à fait. Hein. Donc c'est constaté, entre autres, François Jacob, qui était quand même un biologiste assez éminent au XXe siècle, en a parlé.
Mais c'est surprenant, on ne peut pas l'expliquer, du coup.
Ben, ça pose surtout une grande question, c'est-à-dire est-ce que l'esprit ou la manière de penser de l'être humain est déjà présente dans la manière dont les molécules se construisent. Voilà, on peut dire ça ainsi, on peut résumer ça ainsi. Donc c'est un très grand point d'interrogation. Ça pose question aux biologistes en tout cas et aux philosophes également.
Bon, en tout cas, c'est un travail passionnant à poursuivre. Elisabeth Martins, merci. Je rappelle l'apparition de votre livre « Qui sont les Chinois ? Pensées et paroles de Chine » aux éditions Max Milo.